Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
Je pensais que dans une saison où on joue le maintien, les matchs nuls comptent aussi. Ça commence par là. Le chemin jusqu'au maintien commence par là. Il faut louer l'état d'esprit d'équipe qui n'a pas lâché jusqu'au bout, quoi.
Salut les amis et très belle année 2025. Et oui, il est encore temps. Le débrief en fin de retour, à croire qu'on attendait un résultat positif du HAC et de son gardien Mathieu Gorgelin que vous venez d'entendre avant de vous retrouver. Le compteur de points qui repart enfin autour de moi, Luc Gallet du Courrier Cauchois, bonjour.
Bonjour et puis bonne année à tous du coup.
Et Mathieu Biot de Foot Normand, bonjour.
Salut à tous.
C'est la Coupe de France qui nous a fait un petit peu décaler cette reprise du débrief 100% HAC, la coupe qui vous occupe bien en ce moment Mathieu, avec la qualif de Div Cabourg. Pour cette première de l'année, parole aux supporters du HAC avec autour de la table Florian Edouin, alias Floc, membre du bureau des HAC fans, bonjour.
Bonjour.
Et Vivien Le Servoisier, également fervent suiveur des Ciels et Marines, salut à vous.
Bonjour à tous.
Et ensemble, on débriefe donc ce nul, un partout face à Reims, on parlera aussi Mercato, et puis on vous demandera votre avis sur la méthode, la personnalité de Didier Digard, stop ou encore, on vous entendra. Après les vives critiques émises à l'égard de l'entraîneur havrais ces dernières semaines, c'est parti pour le débrief 100% HAC numéro 8.
Pas vraiment ému du résultat nul, mais plus de l'état d'esprit, de voir que cette équipe a des ressources et qu'elle est capable de revenir au score après avoir été menée, même dans une situation difficile. Donc les mecs s'accrochent et ont envie d'inverser les choses.
Et on entame avec les mots de l'entraîneur havrais Didier Digard en conférence de presse dimanche après ce nul. Donc un partout face à Reims. Le premier nul de la saison, match comptant pour la 18e journée de Ligue 1 avec une égalisation signée Haruna Sanganté à la 67e minute. Quelques frissons dans les derniers instants. Mais on en est resté là. Le Havre est toujours 17e et relégable avec 13 points. Messieurs, votre avis, bon ou mauvais résultat? On va commencer par nos supporters. Qui prend la parole, Floc, Vivien?
Vas-y, Florian, vas-y.
Ok, bon, oui, enfin, bon résultat, c'est un peu, voilà, je suis un peu plus neutre, un peu plus réservé. C'est effectivement le retour d'un certain état d'esprit qu'on a pu voir, en tout cas dans les langages corporels et dans l'impact mis sur le terrain. Malgré tout, on voit quand même quelques faiblesses techniques, tactiques, et puis un point, c'est quand même assez peu. Le compteur tourne pas suffisamment. Il va falloir mettre la seconde plus vite.
Un point, c'est tout, Vivien?
Oui, au niveau comptable, c'est insuffisant dans l'urgence dans laquelle on est actuellement. Au niveau du contenu, la première mi-temps était vraiment soporifique. Je crois que tout le monde autour de cette table a failli s'endormir devant le spectacle proposé par les joueurs Ciel et Marines. La seconde mi-temps était d'une bien meilleure facture. Ils ont réagi, comme souvent. Ils n'ont pas agi. Et bon, on a eu cette belle opportunité de revenir au score avec un Sanganté très mobilisé, très concerné par l'opération remontada.
Qui venait son retour dans le 11.
Exactement,
pour la première fois,
et il a fait beaucoup de bien dans l'effectif. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis aussi l'arrivée de Gorgelin, on en parlera certainement plus tard dans l'émission, au poste de titulaire à la place de Desmas. Donc voilà, plutôt positif parce qu'on entame on attaque la seconde partie de saison, on prend un point. C'est la première fois qu'on prend un nul depuis le début de saison, c'est incroyable. Mais on avait pour le moment fait que 4
victoires. Le fameux premier nul qu'on attendait depuis
4 victoires, 13 défaites, ce qui a été assez incroyable. Je pense qu'à niveau européen, y a pas d'autres équipes concernées, je pense pas. Donc voilà, on va positiver.
Luc, je vois hocher la tête, faire la moue, je ne sais pas.
Non, pas faire la moue. Moi, j'aurais tendance à dire résultat presque logique, en fait. Parce que, et pourtant, Dieu sait que Reims n'est pas dans une bonne période. Nous non plus. Ça, voilà, c'était deux équipes qui étaient un peu en difficulté, forcément, à ce moment de la saison.
Ils n'avaient plus gagné depuis 6 matchs. Hein,
ouais, c'est ça.
Mais ils étaient quand même qualifiés en Coupe de France.
Entre-temps,
contre Monaco, tir au but quelques jours avant. Ouais. C'est une équipe malade, mais a quand même un peu de matos sur le terrain quand même.
Reims qui est coaché par Lucas Elsner, on a oublié de le rappeler.
Ancien coach Céline Marine. Ouais. Donc moi j'aurais tendance à dire plutôt résultat logique quand on voit justement le contenu entre la première et la deuxième période, entre deux équipes voilà, qui sont un peu des bêtes blessées mais qui ont du mal en ce moment. Mais résultat qui pour moi est quand même un peu décevant parce que pour moi il y avait un coup à jouer quand on voit un peu cette équipe rémoise qui était quand même pas sereine du tout, même sur cette deuxième période. Alors certes, Gorgelin effectivement fait le taf bien comme il faut. D'ailleurs, en fin de match, il nous soulage un petit peu et il garantit le point du nul justement, et heureusement. Mais j'aurais tendance à penser que c'est quand même une déception, quoi, ce résultat.
Mathieu, vous dites il faut prendre tous les points qu'on peut.
C'est surtout que quand vous avez aligné 5 défaites consécutives en Ligue 1, je crois que la priorité c'est de stopper cette série. Alors oui, c'est que 1 point, et quand vous n'avez que 12 après 17 matchs, bah forcément ça pèse pas beaucoup, mais à l'instant présent, je pense que ça soulage quand même un minimum. Après, voilà, il faut être en capacité d'enchaîner, de le convertir. Là, les joueurs se sont prouvés qu'ils étaient capables de reprendre des points. C'est déjà un premier pas. Maintenant, la deuxième étape, c'est être capable de regagner. Alors, la marche est bien plus haute. Mais quand même, il y a eu 20 minutes quand même que je qualifierais d'intéressante au retour des vestiaires. Alors, c'est que 20 minutes, enfin 20-25 minutes. C'est que 20-25 minutes, mais c'est déjà ça. Et contre Lens, une semaine avant, même s'il y avait une défaite, il y avait eu une entame de match. Par contre, là, c'était les 25 premières aussi intéressantes. Alors, on va se dire qu'on se raccroche vraiment à des petits signes et tout, mais j'ai envie de voir le verre moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je pense que ce point, c'est plutôt une bonne chose.
Mais c'est justement là-dessus, on restait sur une prestation. Alors certes, même s'il y avait encore une défaite, mais on restait sur une prestation qui était presque rassurante, séduisante par moment, et on n'a pas retrouvé notamment tout ça sur cette prestation face à Reims. Enfin,
je crois qu'on peut tous conclure la même chose, hein. C'est rassurant mais pas suffisant. Je crois que pour résumer en une phrase,
c'est pas mal résumé.
Voilà. C'est bon, j'ai mon titre.
on se dit qu'il faudra de toute façon cette fois-ci plus d'une victoire pour bouleverser le classement, alors qu'il y a quelques mois finalement on se disait tout peut se jouer en un match. Là voilà, les suivants ils sont à 4 points, donc bon, c'est pas énorme, mais ça suffit pas. Ouais. Une victoire pour remonter.
L'écart commence un petit peu à se creuser, et on a le retour de Montpellier qui était à 3 points derrière nous et qui a gagné contre Monaco, ce qui est assez incroyable. Et ouais, il va falloir en fait enclencher une nouvelle dynamique, hein. Le foot, c'est une question de dynamique. Une victoire, un match nul, hein, par-ci par-là, c'est pas suffisant. Si on veut vraiment engranger des points et engranger de la confiance, c'est très important qu'on enchaîne par une victoire contre Brest. Je pense qu'on a les moyens, franchement. Brest, je vois faire un côté de moi qui est dandine de la tête, mais non, mais je suis naturellement très optimiste, mais bon, j'ai envie d'y croire.
Un club européen.
De toute façon, il faut que le compteur tourne, hein. Il reste la moitié du chemin à parcourir. Il faut globalement faire un peu plus d'un point par match. Voilà, plus on attend, plus on est obligé d'avoir des résultats.
Bah, plus ça devient urgent, surtout.
Exactement.
On parlait de ce choix fort, on peut dire, hein, c'est le mot, de changer de gardien. Mathieu Gorgelin, titulaire en lieu et place d'Arthur Desmas, ça n'était plus arrivé depuis le 25 février 2024, et c'était déjà contre Reims. Est-ce que ça va durer? Alors, écoutez la réponse de Normand, hein, je crois qu'on peut dire, de Didier Digard.
Je peux pas me prononcer aujourd'hui. Mais en tout cas, sur sa prestation du moment, Mathieu mérite que ça continue. Et après, c'est le football et les performances qui dictent les choses.
Didier Digard en conférence de presse après le dernier match. Stratégie payante, ce changement de gardien, Mathieu?
Bah, ils ont fait match nul. Sur le but, il n'est pas impliqué. Il s'est montré plutôt rassurant sur toutes ses prises de balles. Visiblement, la justification footballistique, on va dire, était que Mathieu Gorgelin était un gardien qui serait en mesure de mieux soulager sa défense sur le domaine aérien. Ça s'est vu sur le terrain. Donc oui, c'est un choix qui, enfin, c'est toujours les résultats qui vous donnent raison d'un son ou tort.
Exactement.
Moi, j'ai envie de dire qu'à l'instant T, ça donne raison au coach et au staff d'avoir fait ce choix-là.
Votre avis, messieurs?
Complètement d'accord. Enfin, voilà, c'est le résultat qui parle à la fin. Le résultat, même si encore une fois il n'est pas suffisant, il est là. Arthur Desmas n'était pas spécialement rassurant dans son positionnement, dans ses sorties sur les derniers matchs.
C'est surtout sur ce point-là, voilà, j'ai l'impression que
sur ce point-là,
côté
c'est
tonique,
rassuré sa défense.
Sur les sorties,
et je pense que Gorgelin l'a fait. Et même si Didier Garf fait une réponse de Normand, on a quand même l'impression qu'il est élu de la question, mais que dans les faits, Mathieu poursuivra.
Ouais, de toute façon, c'est très compliqué. Enfin, quand vous faites ce choix-là, c'est vrai, on dit que c'est un choix fort, mais c'est vrai parce que c'est quand même très compliqué. Enfin, je connais pas personnellement Arthur Desmas, mais là, enfin, on va pas se mentir, même s'ils s'entendent très bien entre eux, vous risquez quand même de le perdre un petit peu psychologiquement, quand même, Arthur Desmas. Vous pouvez pas toutes les semaines changer de gardien. Voilà, donc c'est un choix fort. Si derrière vous continuez pas avec Mathieu Gorgelin, là ça serait un peu, d'un point de vue extérieur, ça serait un peu incompréhensible.
Est-ce qu'il n'était pas déjà perdu psychologiquement? Parce que c'est quand même un gardien qui a eu des résultats en Ligue 2. Il finit meilleur gardien de Ligue 2. En Ligue 1, il a fait une excellente pige l'an dernier. Je peux pas croire que tu perds ton niveau du jour au lendemain. Il avait quand même l'air un peu mentalement perdu déjà, Arthur Desmas. Effectivement, c'est compliqué de revenir là-dessus. Et bon, j'ai envie de dire perdu pour perdu, de toute façon.
Ouais, puis il y avait déjà un signal quand même avant le match contre Lens. On sentait déjà la réflexion qui était à un stade.
Oui, on s'attendait presque d'ailleurs à le voir.
À le voir déjà aligné. Hein. Ouais, y avait un vrai doute en tout cas sur savoir si c'était déjà Mathieu Gorgelin dans les buts de ce match-là. Bon, finalement, c'était Arthur Desmas. Mais oui, après, j'attends de voir la suite. Quoi. Est-ce que c'est juste un coup pour histoire de soulager un petit peu Arthur Desmas? J'ai pas tendance à y croire quand même, mais bon, à suivre.
Vivien, ce sera un one-shot ou pas?
Je pense que Gorgelin a gagné sa place de titulaire par rapport à sa prestation de dimanche, clairement. Je vois mal Didier Gare changer d'avis. Il aurait fait une sortie moyenne ou pas bonne, je pense que le débat se serait de nouveau posé, mais là, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire. En tout cas, pour les 4-5 prochains matchs, j'en suis convaincu.
D'ailleurs, le coach qui a fait plusieurs choix depuis deux matchs, c'est aussi un changement de système, on va dire, avec un passage en 4-4-2. Mmh. Bon là, il bénéficiait également du retour quand même d'Aruna Sanganté, qu'il avait mis au poste de latéral droit. On y reviendra, il y a bientôt l'apport de recrues. Mmh. Mais on sent quand même que il essaye quand même de trouver, après avoir longtemps insisté sur un schéma à trois défenseurs centraux, justifiant le fait que s'il passait à 4, ça allait fragiliser sa défense. Là, il a changé. Et puis la nouveauté, alors, qui était un peu contrainte et forcée, parce qu'Abdoulaye Touré est malheureusement out pour de longues semaines, parce qu'il s'est cassé les côtes suite à un duel contre Lens. Oussama Targheline a fait son retour à un poste vraiment de milieu défensif dans l'axe, qui s'en est plutôt très très bien sorti, d'ailleurs. Enfin, il y a quand même des choses, les lignes bougent. Je sais pas votre avis, messieurs, sur ces changements. Il a le mérite d'essayer, en tout cas, le coach et son staff. Il tente des choses, en tout cas.
Les essais, il en fait depuis le début de saison. Je crois que c'est vraiment la patte d'Igard depuis le début de saison. Il n'y en a quasiment pas eu un seul 11 identique d'une journée sur l'autre. Donc, des essais, il en fait. Voilà, on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas dire qu'il soit obtus là-dessus. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Pas trop, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. C'est le retour de Sangranté en arrière-droit. Et je pense que le 4-4-2, justement, la défense à 4, va pouvoir, grâce à son retour... j'espère sur la durée, qui ne blessera pas à nouveau, mais il n'y a pas de raison, va pouvoir permettre d'asseoir ce 4-4-2, parce que il apporte beaucoup de dynamisme, de hargne, et défensivement, il apporte de garantie. Ça permet d'avoir un joueur qui joue un cran plus haut et qui permet de déjouer ailier, Nego ou peut-être Casimir dans le futur. Donc je pense que c'est un bon choix. Et puis Targheline en numéro 6, c'est un peu un choix par défaut, puisque jusqu'à maintenant, c'était plutôt Touré qui était titulaire à ce poste. Touré est absent, malheureusement. Targheline retrouve un poste de prédilection. Hein. C'est plutôt le poste qu'il souhaite.
Il semble ne pas avoir caché que c'est sa préférence de jouer devant la défense.
Mais ce n'était pas le choix de Didier Villard.
C'est ça.
Voilà. Donc là, il a fait un bon match. Faut voir l'association future avec... Diawara qui va arriver, là, qui a signé récemment et qui, paraît-il, est un bon prospect. Donc, on en parlera de ça devant du mercato tout à l'heure. Mais voilà, il y a quand même des signaux positifs pour l'avenir et voilà, qui me donnent envie de rester positif.
Oui, effectivement, les essais sont plutôt bienvenus puisque de toute façon, force est de constater que ce qui était fait précédemment ne fonctionnait pas. Moi, je suis un petit peu plus réservé sur l'assiette défensive. Je trouve que contre Lens, plus que contre Reims, mais dans les deux matchs, on se faisait quand même beaucoup transpercer. Je trouve qu'on n'était pas très rassurant défensivement non plus, ce qui était notre force par le passé. En revanche, on se projette beaucoup mieux. Je trouve que bon, on n'a pas la possession, mais sur les phases de transition, on sent que ça percute beaucoup plus. Pour Aruna Sanganté à droite, moi je trouve que c'est un peu gâché. Je pense que c'est un choix par défaut parce que Loïc Nego, clairement, il n'est pas au niveau cette saison. Et je pense que c'est, à mon avis, un choix un peu par défaut. Moi, je préfère avoir personnellement Sanganté dans l'axe, mais bon, on n'a pas...
Avec qui, du coup? Avec Étienne Youté ou avec Gauthier Lloris? Du coup, ça serait 3 pour 2 places si on regarde
la c'est compliqué, 4. C'est aussi pour ça que je dis que c'est un choix par défaut, c'est qu'aujourd'hui, ces 3-là sont quasiment indéboulonnables.
Et faut trouver comment les mettre ensemble, du coup.
Je pense qu'il y a plus de complémentarité entre Lloris et Sanganté qu'entre Youté et Sanganté, mais tu vas pas écarter Youté, donc bon, voilà.
L'année dernière, c'était déjà c'était la composition d'équipe, c'était, dans mes souvenirs, Youté, Lloris en défense centrale et Sanganté qui est arrière droit d'ailleurs.
Très souvent, oui.
Très souvent.
Et on parlait de l'arrière droit, Pembele, les quelques fois aussi où il a été aligné, c'était pas trop ça non plus.
Oh, t'es gentil, c'était cataclysme.
la version journalistique et la version supporter, voilà, c'est. Ça dit les mots.
J'ai rien contre Timothée Pembele, mais pour l'instant, c'est pas la recrue la plus convaincante. Hein.
Il montre quelques lacunes techniques, on va dire ça comme ça.
Si, je trouve qu'au duel, c'est un peu léger quand même. Ouais, c'est. Il y a du boulot.
Allez, dans le débrief 100% AC, vous en parliez justement. Un œil sur le mercato. À l'heure où on se parle, on est à deux départs. Ngoura vers Bruges, Opéry vers Istanbul et deux arrivées. L'attaquant égyptien Ahmed Hassan Dikouka, 31 ans, solide expérience en Europe. Et puis le milieu de terrain français, Mahamadou Diawara, prêté par l'OL, 19 ans. Doit-on s'attendre à d'autres arrivées? Réponse du coach dimanche dernier.
On espère. Le club se donne les moyens d'au moins avoir des discussions et d'espérer, et encore une fois, pour cet état d'esprit, pour injecter du sang neuf, on le voit rapidement, c'est des choses, même si les joueurs qui sont présents aujourd'hui ont un état d'esprit remarquable, mais même à eux, ça leur fera du bien d'avoir des gens venant de l'extérieur d'une autre mentalité qui vont apporter autre chose et tirer tout le monde vers le haut.
Florian, je vous vois hocher la tête. C'est un message important de recruter malgré ce contexte sportif compliqué, malgré aussi ce contexte financier compliqué dont on a beaucoup parlé.
Je pense qu'on fait, Mathieu Bonnemer fait ce que cet hiver, ce qu'il a pas pu faire cet été. Je sais que c'était dans les plans de régénérer un peu l'effectif. C'est vrai que jouer un maintien, c'est forcément mentalement assez usant. Je pense que même physiquement la saison était éprouvante pour beaucoup des joueurs la saison passée, et ils ont pas réussi à régénérer pour le contexte, on va dire, économique et celui de la ligue qu'on connaît, et c'est ce qu'ils sont en train de faire cet hiver, et je trouve que c'est plutôt c'est un bon move, quoi, c'est logique.
Encadrement de la masse salariale,
Et interdiction de recrutement à titre onéreux. Et enfin, beaucoup de choses.
Oui, on doit comprendre.
C'est un parcours du combattant pour recruter au hack. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir.
Ouais, Didier Digard dit qu'on se donne les moyens. On joue surtout avec un contexte qui est pas facile et puis avec des paramètres sur lesquels on n'a pas forcément la main.
Voilà. Là, ce qui a permis, c'est les départs, en fait, qui ont permis de recruter, je pense, dans un premier temps, et aussi des accords, le Diawara, et en fait, il est pas payé par le HAC, il est payé par Lyon, ce qui est aussi le cas de Ilyes Soussni, lui pour le PSG, et de Timothée Bembélé qu'on cite tout à l'heure pour Sunderland. Voilà, c'est qu'il faut trouver des accords quand même, faut trouver des accords avec des clubs qui acceptent ce type de transaction, donc c'est pas simple quand même.
Vivien, est-ce que c'est rassurant quand on est supporter de voir des joueurs arriver?
Dans l'état actuel des choses, oui, parce que par rapport à la situation du HAC, il y a trois choix qu'on retrouve un peu dans tous les clubs. C'est soit on change l'entraîneur, soit on change les joueurs, soit on change l'entraîneur et les joueurs. Nous, on a fait le choix de garder l'entraîneur, donc on change les joueurs. Dans le contexte économique actuel qu'on connaît, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. On arrive à trouver quand même des ça, l'avenir nous le dira, hein. On verra sur le terrain concrètement ce que donne Kouka, ce que donne Diawara, mais en tout cas sur le papier ça a l'air pas mal par rapport à nos moyens vraiment faméliques. Moi je demande à voir, j'ai bien aimé l'entrée de Kouka dans le match de dimanche, sur la demi-heure qu'il a joué, je l'ai trouvé assez intéressant dans ses prises de balles, dans ses appels. Après, bien évidemment, il était encore un petit peu perdu sur le terrain parce que il est arrivé récemment, donc c'est difficile de lui demander.
Il doit encore prendre ses repères.
Voilà, exactement. Mais puis il va permettre, ça va permettre de suppléer un petit peu Ayou parce que André, pauvre, je sens qu'il tire un peu la langue.
Je crois que c'est surtout ça l'intérêt numéro un du recrutement
De soulager
Hassan Kouka, c'est que je pense pas qu'André Ayou soit capable aujourd'hui de faire 30 matchs à haut niveau de Ligue 1. Peut-être qu'il est capable d'en faire 15, peut-être qu'il est capable d'en faire 10, et ça sera déjà très bien parce que ça permettra. Mais il y a besoin d'un relais sur ce poste axial qui n'existait pas vraiment. On l'a vu en début de saison avant qu'André Ayou revienne. Didier Digard a testé plein de formules, notamment avec Issa Soumaré et tout. Ça le faisait pas trop. Là, au moins, il y aura un vrai spécialiste du poste avec des références dans des championnats, peut-être pas de top 5, mais ça reste quand même la Grèce, ça reste quand même la Turquie, ça reste quand même le Portugal, des très très bons championnats.
Et surtout un profil clairement différent des autres attaquants qu'on a dans notre effectif. Un attaquant qui est capable de jouer vraiment dans la surface, de garder des ballons même s'il est dos au but. Enfin voilà, c'est quelque chose que le HAC n'avait pas dans son effectif cette saison pour le moment.
C'est un relais physique, c'est aussi un relais peut-être d'un point de vue expérience. 31 ans, c'est vrai que les recrues qu'on avait vues ces derniers mois, on n'était pas...
Plutôt des bébés. Hein.
Ouais, l'équipe est jeune. Hein. L'équipe est très jeune, il y a beaucoup de joueurs issus de la KV ou des jeunes prospects, effectivement, puisqu'on peut pas aller chercher forcément des joueurs expérimentés sous contrat. Moi, je rejoins complètement ce que dit Luc. Je sais pas si Kouka, ça va le faire, mais en tout cas, dans le profil, aussi bien le profil comportemental, le leadership, que le profil cible du joueur, capable de jouer de haut but, de libérer des espaces, de faire remonter un bloc, je trouve que c'est très très malin comme recrutement. Voilà, maintenant, est-ce que ça marchera?
Ça fait un peu pari quand même, hein. moi je trouve. Mais bon, oui. C'est quelque chose.
Mais
que...
compte tenu du contexte économique, les recrutements sont en défense de Paris. Vous allez faire venir quoi? Un mec qui a pas joué avant, un jeune qui, bah, comme Diawara, qui cherche du temps de jeu. Soit vous allez relancer un gars. C'est que ça.
De toute façon, ça, faut être clair. La situation ne permet pas de faire n'importe quoi. Il faut à la fois ne pas brader ses chances de maintien, sachant qu'elles sont quand même déjà un peu hypothéqué, mais faut pas non plus désespérer, donc faut quand même voilà régénérer l'effectif, et il faut également ne pas brader sa pérennité économique, donc ce sera forcément des recrutements malins et des paris.
Il va falloir dégraisser aussi, Mathieu, maintenant.
Mais en fait, l'équilibre il est toujours comme ça. Je pense que si ces deux premières recrues sont arrivées, c'est parce qu'il y a deux joueurs qui sont partis. Hein. Il y a toujours cette histoire aussi de masse salariale. Là, c'est vrai que Mathieu Bodmer me confiait que là, la priorité absolue avant d'accueillir éventuellement des nouveaux joueurs, c'était de faire partir des joueurs. Alors c'est toujours, il y a le volet faire partir des joueurs qui vont rapporter une indemnité financière, comme l'ont fait Christopher Opéré et Steven Ngoura. Comme l'a dit Florian, faut pas non plus hypothéquer ses chances de maintien. Vous avez laissé partir Christopher Opéry parce que vous saviez que vous avez, je pense, Yannis Zouayou derrière et que, bah, mine de rien, il fait le taf quasiment à chaque fois qu'il est aligné. Donc, vous avez pas pris un risque sportif important. Steven Goura, même si c'est un jeune joueur qui sera certainement très très bon, à l'instant T, il avait pas non plus prouvé énormément de choses. Vous prenez Hassan Kouka, qui a plus de... Donc là, j'ai pas l'impression que vous perdez énormément sur le papier. Maintenant, on verra s'il y a un prochain départ de cette catégorie-là. On verra. Florian, je sais pas ce que tu en penses.
Il y aura deux types de départs. Hein. Mmh. Il y aura forcément des départs qui seront plutôt dictés par le besoin financier. Qui permettront de remplir les caisses de quelques millions. En tout cas, c'est ce que Mathieu souhaite faire, mais également diminuer aussi la taille du groupe pro. Pour rien vous cacher, on les a vus avant le mercato, enfin avant même la défaite en Coupe de France. Et clairement, la volonté, c'était aussi de réduire l'effectif professionnel et d'en régénérer une partie pour amener aussi un peu de
changement. Didier nous l'avait aussi confié. Mais ce deuxième volet, il est certainement bien plus compliqué,
bien sûr,
que le premier. Parce qu'aujourd'hui, on cite toujours les mêmes joueurs. Hein. On cite Aloïs Confet, on cite Samuel Grandsir, on cite Yann Kitala.
Walid El Hajjam.
Voilà, Walid El Hajjam, tout à fait. Bon, après, ces joueurs-là, on peut estimer qu'ils ont... Enfin, visiblement, le staff estime qu'ils n'ont pas le niveau Ligue 1. C'est leur regard, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils ont un contrat de travail, ils n'ont rien fait de mal. Ils vont pas partir pour les beaux yeux du coach ou de Mathieu Bonnemer. Donc, il faut leur trouver une solution. Ils ont des émoluments, qui sont pas anodins. Ils ont une carrière à gérer. Donc, s'ils trouvent pas vraiment quelque chose de serein, et puis, vous avez l'avantage, j'imagine, c'est qu'au Havre, c'est que vous êtes payé en temps et en heure. Quand vous partez dans des championnats qu'on va qualifier d'un peu plus exotiques, on vous fait des fois des promesses, mon émerveille, et puis au bout de deux mois, ou à Angers. Qui tacle au passage pour nos amis en juin, s'ils nous écoutent.
Très exotique.
Voilà. Ouais. Et donc c'est, moi je comprends aussi les joueurs qui doivent être prudents. Oui, partir, oui, peut-être pour gagner du temps de jeu, mais si c'est pour se retrouver dans un plan foireux, excusez-moi l'expression, non, je préfère cirer le banc encore six mois, quoi.
Puis même au-delà, c'est difficile de donner envie à des clubs de les recruter quand tu les valorises pas avec du temps de jeu, quoi.
Non, c'est un pari. Je vois, c'est plus qu'une rumeur, mais la rumeur Samuel Grandsir.
Et alors vous qui avez souvent les oreilles qui traînent du côté de Malherbe.
À Caen, enfin bon, pour l'instant, les dirigeants de Caen, ils ont pas contacté Mathieu Bonnemer, donc faudrait déjà décrocher son téléphone, même si ça arrive vite. Mais c'est quand même une forme. Samuel Grandsir, je sais pas son temps de jeu cette saison, mais il est familique.
Ça se compte en minutes.
Quelques minutes. Ouais.
Donc peu importe le club, que ce soit Caen ou un autre qui l'engage, il faut quand même se mettre dans la tête que il va pas retrouver son top niveau si c'est possible du jour au lendemain. Donc
en même temps, c'est pour aller jouer le maintien en Ligue 2, quoi.
Oui. Mais bon, quand vous êtes quand vous n'êtes pas en forme, je vois qu'il y a un petit tacle adressé là. Mais il est tout à fait justifié.
Par contre, une chose qui peut laisser penser peut-être qu'on va peut-être trouver des portes de sortie pour ces joueurs-là, c'est que ce qui est spécifique au mercato d'hiver, ce sont pas c'est pas un mercato classique où les joueurs avec une vraie valeur partent du club et arrivent dans un autre. Là, on est plus sur des coups que tentent des clubs qui sont en difficulté, qui cherchent ailleurs des profits qu'ils n'ont pas. Et je vois très bien quelqu'un comme Grossier effectivement partir à Caen ou ailleurs parce que peut-être qu'il y aura un besoin urgent dans un club en difficulté, en Ligue 1 je crois pas trop parce que c'est plutôt en Ligue 2 ou en National, et qui vont tenter le coup Grossier ou El Hajjam. La difficulté, comme tu disais Mathieu tout à l'heure, c'est qu'il y a des contrats de travail dans les deux sens. Les contrats de travail, ça se respecte et c'est très bien. D'ailleurs, je trouve qu'Oax, qui est bien par rapport à d'autres clubs, c'est qu'il n'y a pas le loft. on n'est pas en train de stratifier. Mais
parce que les gens humainement.
Voilà, humainement. Bien. C'est,
après,
c'est,
t'as des résultats, voilà. T'en as pas, ça c'est un
exactement.
Autre débat, mais.
Ça c'est une valeur importante.
Il y a des gens bien à la tête du club.
Moi, on tient, et comme beaucoup de supporters, voilà, on a des valeurs et on y tient et c'est important. Et voilà, je pense qu'il y aura certainement des portées de sortie pour ces joueurs-là et aussi, leur départ va libérer un peu de masse salariale. Qui va peut-être nous permettre aussi peut-être de recruter au-delà de l'argent sonnant et trébuchant en termes de transfert. Oui. La masse salariale, c'est important.
Si vous séparez des 4 joueurs qu'on a cités sans les incriminer.
Chaque joueur arrivé doit être validé par la DNCG au regard de la masse salariale. Mmh. Donc, de toute façon, faudra réduire cette masse pour pouvoir prendre du monde.
Il y a ces 4 joueurs qu'on a cités. Est-ce qu'il y en a qui risquent de partir et qu'on ne veut pas voir partir? Je pense à... On parlait d'Aruna Sandanté tout à l'heure, par exemple.
On parlait de Targaline, par exemple. Targaline, s'il prolonge pas, potentiellement, s'il y a une offre, il partira. Mmh, ils vont pas se permettre de le libérer.
Il y a personne qui est intransférable.
Mmh. Oui. Surtout vu les besoins financiers.
Objectivement, je pense que s'il y a un club qui arrive avec une offre financière, considères qu'il y a un joueur qui est intransférable?
Non, je pense qu'il y a des joueurs qui vont devenir intransférables au regard d'autres transferts. Je veux dire, si tu lâches Sanganté, tu lâcheras pas Lloris ou Youté derrière.
Oui,
si tu lâches,
ouais. Voilà. Faut être le premier de la ligne.
Par contre, tu as raison. Dès que tu as un transfert valorisé à cette chiffre, clairement il y aura pas de débat, je pense.
Bah c'est oui, moi je pense que c'est surtout on parlait tout à l'heure de la défense centrale, on entend la rumeur notamment Sanganté là sur ces dernières heures du côté de Séville, on a entendu parfois des rumeurs aussi sur Youté qui avait eu des potentiels clubs intéressés. Je pense que si l'un d'entre eux part en défense centrale, le HAC ne dira sans doute pas non vu la contrainte financière qu'il existe en ce moment. Donc ça va peut-être coïncider et amener à faire d'autres mouvements aussi.
Après, ça peut dépendre aussi du deal proposé par l'équipe qui achète le joueur. Mmh. On peut se le faire prêter dans la foulée. Ça, c'est une situation qu'on a souvent rencontrée.
Avec Joujou, par exemple.
Exactement, ouais. Voilà. Sanganté, s'il signe à Séville pour plus de 10 millions d'euros, c'est un chiffre.
Ah, c'est plus optimiste là. C'est...
Ouais, mais j'ai rien 10 millions.
C'est terminé, Noël. Hein.
10 millions.
C'est terminé, Noël.
J'y crois absolument pas. C'est pas le prix du marché, mais voilà. Et on nous donne un chèque et on dit bon, on vous laisse Sanganté jusqu'à la fin de la saison. Bah, banco, hein.
Et moi, je voulais vous demander si le club devait encore recruter un joueur cet hiver. D'après vous, ça serait sur quelle ligne, sur quel poste? Et même si éventuellement vous avez un petit joueur entre guillemets, un petit.
Je crois que la volonté était d'en recruter au moins sur chaque ligne. Donc là, t'as fait un milieu de terrain et tu as fait un attaquant. Pour moi, la logique voudrait que ce soit défenseur. J'ai quand même l'impression que le poste le plus urgent aujourd'hui, c'est le poste de latéral gauche, puisqu'il y a personne pour suppléer Zouaoui. Moi, dans ce que je vois passer. Encore une fois, je ne sais pas si ça marchera, mais je trouve que l'idée de Faudet Ballo Touré, ce serait quand même à notre échelle un sacré recrutement.
Qui a priori est maintenant libre.
Il est libre. Il a été libéré cet après-midi par la AC Milan. Ce serait, sur le papier, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait fait avec André Ayew.
Ou ce qui a failli être fait avec Malang Sarr.
Avec Malang Sarr de Chelsea.
Fut-il encore quelques mois temps. Et donc oui, c'est une piste qui. Bah en tout cas, c'est une piste qui est possible de par le fait qu'il n'y a pas de transfert.
Ou si on va plus loin, toutes les bonnes pioches du HAC qu'on a pu faire en Ligue 2. Hein, on se souvient Gauthier Lloris, Opéry, tout ça, ces joueurs-là, ils jouaient pas du tout. Hein, ils étaient ou placardisés ou revenus de blessures graves, comme Gauthier. Donc on a su en fait faire revenir des joueurs qui étaient un peu à la cave. Pour des raisons diverses, qui ont su se remettre dans le bon sens.
Ouais, faut reconnaître ça, Mathieu Bonnemer, c'est qu'il a pas un taux de réussite de 100%, mais il en a quand même d'excellents.
Ouais. Et petit rappel, Didier Digard avait dit lors du précédent épisode, la priorité c'était éventuellement le poste d'attaquant et de milieu. Donc là, au moins, il a déjà coché ses 2 cages.
Eh ben, on fera le point sur le prochain numéro puisque le mercato là se poursuit jusqu'au 3 février 23h. Hein. C'est toujours
un petit
ça prolonge, ça est durable chaque année.
Voilà.
Ça,
les arrêts de jeu, ouais, c'est
l'année,
ça.
L'année prochaine, ça terminera au mois de mars, je pense. Ça sera bien, ça fera du.
Cette année, en tout cas, j'aime bien le mercato d'hiver. Tu vois, d'habitude, je me dis toujours quand est-ce qu'on le supprime, il est nul. Cette année, il me plaît bien.
Ça peut être une arme très utile quand
on
lutte pour le maintien.
On est content cette année de voir des joueurs partir et des joueurs arriver. C'est assez paradoxal. Généralement, on a plutôt peur de voir des joueurs partir. On dit, bah si, faut partir.
On le voit comme une opportunité, pas une contrainte.
C'est un levier très important dans la course au maintien.
Et ben bilan dans quelques semaines. Les sifflets du Stade Océane dans ce premier débrief 100% hack de l'année. Vous le savez, au mois de janvier, on a coutume de souhaiter les bons vœux et la bonne santé. Alors, on a déjà commencé, mais on va continuer à prendre le pouls des supporters avrés à travers vous, Vivien et Florian. Vous nous avez déjà en partie répondu, hein, mais voilà, comment ça va et comment vous avez vécu ces dernières semaines, là, peut-être, voilà, cette toute fin de, d'année 2024, ce tout début d'année 2025. Voilà, comment ça va?
Jusqu'au match de dimanche, c'était un peu la dépression quand même. J'ai pas passé de bonnes fêtes de fin d'année. Enfin, le foot, c'est pas non plus le centre de ma vie, mais voilà, c'est important. Et on a enchaîné des mauvaises prestations, enfin des résultats décevants et des contenus inquiétants. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment pas fameux. On a eu quelques éclaircies avec des matchs contre des équipes supposées à notre portée. On a gagné contre Auxerre, on a gagné contre Saint-Étienne, contre Nantes et Montpellier, mais pour le reste, c'est largement insuffisant et on espère vraiment qu'une nouvelle dynamique va vraiment s'enclencher avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs.
Florian, vous disiez tout à l'heure, je les vois dans le corps, ils sont différents.
Ce que je disais à Mathieu Bonnemer, moi, ce qui me choquait, au-delà du contenu des matchs, c'était surtout le langage corporel des joueurs. Je trouvais qu'ils dégageaient pas cette force, cet impact, cette envie qu'on a pu voir chez eux et qui est un peu leur marque de fabrique en plus. Je trouve que ça revient progressivement. Bon, moi, pour répondre à ta question, je vais bien, merci. Mon moral ne dépend qu'en très peu, en très petite partie des résultats footballistiques. Ça reste que du football. Je suis un peu déçu de la situation. Je m'attendais à mieux. On se doutait que la deuxième année serait forcément plus difficile, surtout au regard du contexte de la Ligue. Merci la Ligue au passage. Mais, quoi qu'il arrive, tout ce que je veux, c'est qu'on soit donné les moyens de se maintenir, au moins dans l'envie, au moins dans l'impact. Et s'il y a ça, si on descend, on descend. Mais au moins, on leur a fait les armes à la main et en mourant sur le terrain.
C'est exactement ça. Hein. C'est très bien résumé. Moi, à la limite, descendre, je l'ai intégré dès le début de saison. De toute façon, je savais que ça allait être compliqué. Donc, c'est pas une surprise. Hein. C'est pas comme Rennes qui vise normalement la place européenne et qui se retrouve avec 17 points à cette époque de la saison. Nous, on le savait que ça allait potentiellement arriver, que c'était très probable. Par contre, il faut finir vraiment la saison en se donnant les moyens. Montrant des valeurs de combat, de hargne, des choses qui nous parlent ici à la Cité Océane.
On verra comment ce sera ce week-end, mais le dernier match au Stade Océane, Didier Digard était toujours sifflé par certains supporters. Quel regard vous portez sur cet épisode Digard où, alors, je crois que là, on peut dire que pour l'instant, c'est clôturé. Le club a clairement dit, l'entraîneur, il reste.
Pour moi, il n'y a pas de question. Hein. Didier Digard va rester. Ça nous a été clairement dit. Moi perso, j'ai rien contre Didier Digard. Il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas. Quand je dis nous, je parle pas supporter, je parle en tant que personne. Maintenant c'est les résultats qui jugeront Didier Digard. Il y a certains supporters qui sifflent, d'autres pas. Il y a beaucoup le grand public qui siffle, parce que je fais vraiment la distinction entre grand public et supporter. Ce sont deux entités quand même un peu différentes. Il y a pas en tout cas de vindicte organisée contre Didier Digard. De parler supporters.
Déjà.
La même position que Florian. Moi, personnellement, j'ai absolument rien contre Didier Digard. Je pense que Didier souffre un petit peu de l'image du body language qu'il a un petit peu diffusé en arrivant. Il est arrivé en fait avec des principes de jeu très offensifs, en nous expliquant qu'il préférait gagner 5-4 que de gagner 1-0. Sauf que les 4 buts, on les prend, mais les 5 buts, on les marque pas. Et je pense que dès le début, la fessée contre Borum, si je me trompe pas, en match de préparation, a marqué un peu les esprits des supporters, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit décalage entre les paroles et les actes. Et je pense qu'on a commencé pas suffisamment sereinement la saison. Alors certes, il y a eu des résultats positifs contre Auxerre et contre Saint-Etienne, mais c'était un feu de paille. Et derrière, il y a un enchaînement de résultats qui ont été inquiétants dans le contenu, avec des défaites très lourdes, avec des attitudes déplaisantes, avec une défense passoire, avec toujours cette incapacité de marquer. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a, ce problème-là, depuis la Ligue 2. Depuis 10 ans. Mais avec de temps en temps, des fois, quelques buteurs qui sortent du lot, quelques joueurs qui arrivent et qui repartent, parce que malheureusement, dès qu'on a une pépite, souvent, ils sont courtisés, c'est normal. Je pense que Didier, en fait, je m'appelle Didier, mais en fait, je le connais même pas. Monsieur Dillard, en fait. c'est issu de cette image-là et aussi de l'image qu'il peut donner aussi sur le banc, parce qu'on voit souvent que il a eu deux attitudes assez paradoxales sur le banc. Il était à la fois, des fois, complètement abattu. On le sent, limite, pas concerné par ce qu'il voit. Alors, à mon avis, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, c'est l'image qu'il donne. Et à côté de ça, il était capable de partir dans des colères monstres par rapport à des décisions arbitrales supposées injustes. Ça se discute ou pas, peu importe, mais en tout cas, il a pas un comportement qui était adapté à la situation et qui fait, je pense, qu'il a dû pu crisper un petit peu l'opinion publique par rapport à ça.
Mais moi, je suis de l'extérieur, je suis surpris. Je trouve qu'il a été rapidement pris en grippe.
Oui.
Alors moi, je dis ça complètement de l'extérieur. Oui. Moi, je vois ça. Lucas Esner, que au demeurant, moi, j'adore, mais qui claque quand même la porte un peu du club pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous récupérez Didier Digard. Le club récupère Didier Digard, qui reste un enfant du club quand même, un gamin formé à la Cave Verte, qui avait une bonne expérience à Nice dans un contexte complètement différent. Et je trouve qu'il a été très rapidement pris en grippe, alors peut-être par le grand public et tout. Et du coup, depuis, ça s'est jamais. Alors les résultats ont fait que forcément, ça s'est jamais rabibouché. Moi, j'étais surpris qu'il ait pas eu une petite période plus importante de
perte de grâce.
Ouais. Je me dis, le pauvre, il débarque, il est quand même bien quand même chez lui.
Vas-y, Florian, c'est pour toi. Ouais, vas-y. On pense pareil.
Je trouve effectivement que l'accueil a été très frais. L'accueil était très frais et effectivement le ressenti a été très rapide. C'est un truc qui m'exaspère, la comparaison systématique entre Lucas Elsner et Didier Digard, ça me rend zinzin. J'en peux plus de les entendre, ces comparaisons. Pour moi, c'est vraiment une comparaison de babache, quoi. Je trouve ça vraiment pas intelligent du tout. Didier Digard, je pense clairement, l'image qu'il renvoie, la perception qu'il envoie aux gens, c'est ça aujourd'hui qui fait défaut. Et qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient le moindre mauvais résultat pour lui tomber sur le paletot.
Exactement. On a l'impression qu'il y a même une mauvaise image de Didier Digard, un peu. Enfin, certains supporters ont une mauvaise image de lui, peut-être.
Et il y a un truc qui est tout à fait vrai. Si on doit comparer Lucas Elsner, avec qui, personnellement, j'ai de très bonnes relations, on est resté en contact, enfin, à distant, mais on est resté en contact à l'issue de son passage ici. Lucas, faut se rappeler qu'il nous a mis dans la merde, clairement, que son staff l'a pas suivi et que c'est tout sauf anecdotique. Moi, je me demande, même si le président et le staff nous a jamais répondu sur ce sujet-là, si la baisse de forme qu'on a eue en février coïncide pas à peu près avec le fait que les joueurs aient appris son départ, ou du moins sa volonté de départ.
C'est vérité de possible voilà, départ.
À ce moment-là. Les échanges avec Reims.
Voilà. Et comme tu l'as dit, et très bien dit, je trouve que on oublie que Didier Digard est un enfant du club, un cauchois, un gamin de la cave, un baiseau de la cave. Et je suis toujours assez amusé, même si je ris jaune, par le fait que, alors j'adore Lucas, encore une fois, je remets pas du tout en question l'excellent travail qu'il a fait, il sera toujours le bienvenu ici. Il nous a fait monter, il nous a maintenu en Ligue 1. Mais je trouve qu'il correspond pas en plus à l'image à vrai. Tu vois, le côté besogneux, Didier, t'as le cauchois en lui, tu vois, tu peux facilement t'identifier en lui. Là où Lucas avait plutôt un profil, alors c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais parisien, voilà, toujours
d'intellectuel du foot
voilà,
un petit peu,
ça, toujours bien coiffé, je parle cette langue, c'est génial, hein, c'est super, classe, mais je trouve que ça correspond pas forcément aux valeurs de fighting spirit qu'on veut incarner et auxquelles Didier Digard, en tout cas pour moi, correspond plus. Après, on le sait tous, le public est très versatile. Ouais. S'il nous maintient à la fin,
ça sera un héros. Voilà. Mais justement, dans cette période compliquée, tout à l'heure, tu faisais le distinguo entre le grand public et les supporters, on va dire, du COP, hein, c'est qui ont un regard différent et c'est bien normal. Est-ce que le COP, ou du moins une partie, peut pas jouer un rôle dans ce moment-là, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, en disant, nous, c'est notre coach, la direction a décidé de le garder. Et on va décider de le soutenir et de le montrer entre guillemets, que ce soit par une banderole, soit par des applaudissements, par quelque chose, même peut-être. Vous faites souvent des communiqués sur les réseaux sociaux des fois et tout, qui sont d'ailleurs souvent, je trouve, très à propos. Est-ce qu'il y a pas moyen de, parce que quand on se maintient, c'est tous ensemble en général. Moi, je pense pas qu'un club peut se maintenir sans ses supporters, c'est quasiment impossible. Surtout quand on a 18 000 ou 20 000 personnes tous les 15 jours au stade. Si vous n'avez pas vos supporters avec vous, c'est même plus la peine de jouer, c'est pas la peine.
Alors, je te rejoins sur le fait que le public a forcément sa part à jouer pour aller chercher le maintien. Et qu'un peu de bienveillance ferait pas de mal, parce que ça serait un petit peu plus productif. Maintenant, c'est difficile de donner des directives quand t'es supporter sur le sportif. Nous, le sportif, entre guillemets, Voilà, on le commente aujourd'hui, c'est sympa, mais on n'a pas le droit de juger ça. Nous, la seule chose qu'on a le droit de juger, c'est les résultats à la fin. Les résultats à la fin. Et l'implication qu'on met sur le terrain. Et aujourd'hui, la seule chose sur laquelle on a pu se plaindre officiellement vis-à-vis des dirigeants, c'était voilà, ce manque d'implication ressenti, peut-être pas vrai, mais ressenti sur le terrain. Ce manque, voilà, de, on l'a dit, de fighting spirit qui, à un moment, nous a interpellés. Aujourd'hui, on a l'impression que ça revient.
Ouais, c'est le sentiment qu'il n'y ait pas eu parfois de révolte sur certains matchs, notamment sur la première partie de saison, et notamment sur certains matchs à domicile, où on a l'impression qu'il y a certains matchs où voilà, il n'y a pas eu de réaction. C'est là où peut-être c'est...
C'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu prenais un but et tu savais déjà que le match était fini parce que tu avais l'impression que les joueurs étaient complètement abattus dès le premier but encaissé. Là où avant, on se disait, mais il ne peut rien nous arriver parce que même si on prend un but, on sait qu'on va remonter au score. À la hargne, pas forcément à la technicité, mais à la hargne, on va le remonter. Et c'est ça, je trouve, qui a fait défaut sur cette première partie de saison.
Et là-dessus, moi, j'en veux pas du tout au coach. Moi, j'en voudrais un peu plus aux joueurs. J'ai un peu tendance que l'impression que Didier joue un peu le rôle de catalyseur par rapport à ça et qu'il prend beaucoup de choses sur lui. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises en conférence de presse, qu'il prenait souvent les choses pour lui. Sauf le jour de la défaite contre Saint-Brieuc, il a dit là, excusez-moi les cocos, là c'est pas de ma faute, c'est les joueurs qui étaient sur le terrain normalement contre une Nationale 2, Nationale 3, je sais plus,
N2.
Ils sont censés pouvoir jouer sans coach, hein, technique, il y a pas de souci là-dessus. Et je pousse, je de ce qu'on peut en lire sur les réseaux sociaux, hein, Florian fréquente le même réseau social que moi.
Plus pour longtemps, celui
qu'on ne citera pas. Mais c'est vrai que par rapport à Didier Digard, j'ai vu des commentaires absolument dingos avant même son arrivée. Les gens avaient déjà un a priori extrêmement négatif sur lui, des choses radicales en termes de jugement. Ouais. On peut parler de délit de sale gueule un petit peu.
Ah oui, hein, mais complètement. Voilà. Moi, je me rappelle qu'à son arrivée, avoir lu « Ouais, on va s'endormir en conférence de presse ». Ouais, il a une élocution qui est la sienne, il parle lentement. Et alors ? Et alors ?
Exactement. Moi, je
qu'on en a à foutre. Et surtout qu'en fait, le contenu, enfin, nous qui avons l'habitude de voir, je trouve très intéressant. Nous qui le voyons quasiment chaque semaine en conférence de presse, il refuse jamais une question, même si elle lui plaît pas. Il répond toujours, en plus, de manière courtoise et tout. On a eu la chance de l'accueillir la dernière fois, trois quarts d'heure, une heure, il répond à tout. Voilà. Je trouvais qu'il parle lentement.
Au niveau de la forme, on s'en fout. On a tous notre, je pense qu'en termes d'expression orale, on a tous des reproches à se faire. On n'est pas parfait. Qu'il soit comme ça, il est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est le fond et la façon dont il manage son équipe. La façon de manager son équipe, on n'est pas présent au quotidien, on peut pas avoir un avis. Et au niveau du fond, en tout cas, moi, ce qu'il me dit, ça me choque pas du tout.
Oui, parce que je crois qu'à l'entraînement, même si on n'y a pas souvent accès, il y a quand même quelques éclats de voix quand même. Hein, voilà. Il pousse le méga.
Quand tu l'as connu en équipe de jeunes, et pour le coup, c'est mon cas, hein, on a à peu près du même âge. Didier, c'était un capitaine. Si tu faisais pas ce qu'il te demandait, si tu suivais pas les consignes du coach, il pouvait t'en plafonner. Et c'est pas une image, il pouvait t'en plafonner dans le vestiaire. Et je suis pas sûr qu'il ait changé du jour au lendemain. Alors qu'on lui adresse des reproches sur le fait qu'il tarde, par exemple, à envoyer des joueurs à l'échauffement ou à faire des changements, que sur des coups de pied arrêtés, effectivement, ça fait deux fois de suite qu'on passe à travers et t'as l'impression que c'est pas travaillé à l'entraînement. Pourquoi pas? Voilà.
C'est maintenant, entendable.
Je te rejoins de là à le siffler, mais encore une fois, ce sont que des actes individuels. Il n'y a pas de
consignes.
De consignes de supporters, hein, il n'y en aura jamais. C'est complètement contre-productif.
Moi, je suis en tribune Est, pas du tout dans le COP, et effectivement, ça siffle de partout, hein. Il n'y a pas
un... Au départ, c'était vraiment que sur les latérales. Là, faut l'admettre, il y en a dans le COP. Mais encore une fois, ce sont que des actes individuels.
Le phénomène s'est répandu, quoi. Ouais.
Il y a eu quand même un épisode de dernièrement, quand même après le match de Saint-Brieuc, donc cette défaite d'entrée de jeu, enfin entrée en lice en compétition de Coupe de France. Il y a eu des échanges avec les supporters, avec Mathieu Bonnemer. Je sais pas si vous étiez d'ailleurs présent ce jour-là, mais quelles ont été un petit peu la nature des échanges justement que vous avez pu avoir par d'autres supporters?
Moi, j'en ai eu avec lui, mais pas à l'issue du match de Saint-Brieuc. Tu dois t'en rappeler. J'ai fait un souhait de ne plus jamais faire de déplacement en Coupe de France il y a quelques années. J'en ai fait beaucoup dans des conditions lamentables. Je n'en ferai plus. Donc j'en fais encore pour les matchs, mais pas en Coupe de France. Je crois que la nature des échanges a été surtout liée, encore une fois, au fait qu'il n'y avait pas de révolte, pas d'envie, que les joueurs étaient abattus. Je crois que c'était plutôt sur ça qu'il était interpellé que sur le reste.
Eh ben on verra si la révolte est là dimanche à 15h au stade Océane, Le Havre-Brest, comme d'habitude. Avant de se quitter, tour d'horizon des autres formations du HAC, à commencer par les féminines. Le round 1 face à Montpellier, c'est gagné. Victoire 3-1 en championnat le week-end dernier. Faudra faire aussi bien en Coupe de France, 8e de finale samedi. Même adversaire, et ce sera toujours en déplacement hein, dans le sud.
Toujours, ouais, toujours dans les roues. En tout cas, un très très bon match à défi ce week-end, notamment avec Laurie Kranz, encore une fois, et aussi Chancel FRFA qui revenait en plus d'un épisode un peu d'un décès dans sa famille. Donc en tout cas une super performance je trouve sur la pelouse d'un des bons clients de ce championnat de d'Arkema Première Ligue.
Et bah pourvu que ça dure pour les filles de Maxime Di Liberto, toujours chez les filles, mais en U19 cette fois, belle perf aussi. Victoire 4-1 face à Lens, c'était le début de la phase excellence. Chez les garçons, ça va bien aussi. Victoire 4-1 en R1 contre les Canets de la Mosse. Les Ciels et Marines sont deuxièmes à 4 points du leader Trouville-Deauville, mais toujours avec un match en retard. En U19, ça gagne aussi. 1-0 face à Montfermeil, de quoi donner un peu d'air au classement aux garçons. Ils sont 8e. Et puis un match nul, 1 partout pour les Bézos, les U17. Qui affrontaient QRM. Ils sont 5e de leur championnat. Merci à tous les deux, Florian et Vivien, Floc, je ne sais pas comment on doit dire.
Comme tu veux.
d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce premier débrief 100% hack de 2025. Mathieu Billot, on vous lit sur Foot Normand. On va vous laisser bien préparer le prochain tour de la Coupe de France. J'espère que vous préparez le smoking pour monter les marches à Cannes.
Non, non, on va rester classique. Je ne suis pas sûr qu'à la Boca, il y a besoin vraiment d'un smoking. Je pense qu'un bon gros blouson, ça sera pas mal aussi.
Jogging, ça rime aussi avec
exactement,
smoking,
tout à fait.
Et puis d'ailleurs, il y a un podcast hein, en partenariat avec Tendance Ouest sur cette Coupe de France. C'est le 100% Coupe. Et puis Luc Gallet du Courrier Cauchois, en kiosque cette semaine. On parle notamment de la victoire de notre Havrais Charlie Dalin. Pour le numéro à venir, je ne sais pas. Je ne sais
ouais,
pas
ça plus. Va être un peu du classique, mais en bon retour sur notamment les championnats régionaux, avec quelques résultats, notamment en R1, R2. Donc on reviendra là-dessus, évidemment, ce vendredi.
Et bien, fin de partie dans votre débrief 100% hack à écouter sur Deezer, Spotify et sur tendanceouest.com. La suite de l'histoire, et bien, ce sera dans 15 jours.